Chapitre 40. Lorsque toute la colonne de visiteurs fut enfin visible, Richard se massa lentement le front entre le pouce et l'index et soupira de désagrément. « Que se passe-t-il ? » demanda Callan, assis sur un rocher quelques pas derrière lui. « Il n'y a même pas 50 hommes. » L'inquisitrice se leva, alla rejoindre son mari et lui prit la main. « Eh bien, ça nous en fait 50 fois plus qu'avant. » « Ce n'est pas si mal. » Cara arriva sur ses entrefaites. Posant son fardeau sur le sol, elle alla se poster sur la gauche de son seigneur. Richard croisa le regard sinistre de la mort de Sith. Comment faisait-elle pour avoir toujours l'air de s'attendre au pire depuis le début? De temps en temps, son éternel pessimisme tapait un peu sur les nerfs du sorcier. Tom marchait toujours en tête quand le petit groupe atteignit le sommet du col. Bien que l'ascension l'eût épuisé, le colosse blond eut un grand sourire lorsqu'il aperçut Jensen, qui attendait derrière le socle de la statue à l'abri des regards. Quand ils découvrirent le sorcier en grande tenue de sorcier de guerre, sans même parler du fourreau décoré d'or et d'argent de son épée, les Bandakars ralentirent le pas comme si tout leur courage venait de les abandonner. Lorsqu'ils virent Callan, debout très légèrement derrière son mari, ils s'immobilisèrent, reculèrent de quelques pas, puis inclinèrent respectueusement la tête. À l'évidence, ils ne s'attendaient pas à être accueillis par deux souverains.
« Allons, avancez !»
leur lança Tom. Owen remonta la colonne en exhortant ses amis à continuer leur chemin. Ils obéirent à contre-cœur, traînant honteusement les pieds, et finirent par s'immobiliser à une bonne distance du rocher de Richard. Tandis qu'ils regardaient autour d'eux, hésitant sur la conduite à adopter, Cara avança d'un pas et désigna le sorcier d'un geste théâtral.
« Je vous présente le seigneur Rall, »
dit-elle d'une voix claire et puissante.
« Il est le sorcier de vérité, le légitime détenteur de l'épée de vérité, le messager de la mort, le maître de l'empire d'Aran et le mari comblé de la mère inquisitrice. »
Ce petit discours n'apaisa pas les angoisses des Bandakars. Songeant sans doute que ça ne pouvait pas faire de mal en de telles circonstances, ils s'agenouillèrent avec un bel ensemble. Cara avança encore, tourna le dos aux Bandakars et s'agenouilla aussi. Captant le message, Tom imita la mort de Sith. Tous deux se prosternèrent devant Richard. Dans un silence tendu, les Bandakars ne bronchèrent pas, comme s'ils ne savaient toujours pas que faire.
« Maître Rall nous guide !»
lança Cara avec une sincère conviction. Puis, elle attendit. Tom regarda les Bandakars blonds agenouillés derrière lui. Quand il plissa le front d'agacement, les compagnons d'Owen comprirent qu'ils étaient censés répéter ce que disait la femme en rouge. Le front plaqué contre le sol, ils continuèrent cependant à ne rien dire.
« Maître Rall nous guide !»
répéta Cara sans relever la tête. Cette fois, imitant Tom, tous les Bandakars y allèrent de leur incantation.
« Maître Rall nous guide !»
récitèrent-ils sans grande conviction.
« Maître Rall nous dispense son enseignement !»
continua Cara quand le dernier Bandakar eut marmonné la première phrase. Les types blonds répétèrent la deuxième, mais ils n'y mettaient pas beaucoup de cœur et encore moins de coordination.
« Maître Rall nous protège !»
continua la mort de Sith. Cette fois, l'écho fut un peu plus harmonieux.
« À sa lumière, nous nous épanouissons !»
Les Bandakars reprirent cette partie des dévotions.
« Dans sa bienveillance, nous nous réfugions !»
Là non plus, il n'y eut pas de fausse note.
« Devant sa sagesse, nous nous inclinons !»
Le cœur de Bandakar reprit cette profession de foi.
« Nous existons pour le servir, et nos vies lui appartiennent !»
Quand la dernière phrase eut été répétée, Cara releva la tête et foudroya du regard les hommes réunis devant elle.
« Ce sont les dévotions consacrées au seigneur Rall. Vous allez maintenant les répéter trois fois avec moi, comme l'exige le rituel lorsqu'on est hors des murs du palais du peuple. »
La mort de Sith se prosterna de nouveau devant son seigneur.
« Maître Rall nous guide. Maître Rall nous dispense son enseignement. » « Maître Rall nous protège. À sa lumière, nous nous épanouissons. Dans sa bienveillance, nous nous réfugions. Devant sa sagesse, nous nous inclinons, nous existons pour le servir et nos vies lui appartiennent. »
Richard et Callan ne bronchèrent pas pendant tout le rituel. Il ne s'agissait pas d'une mise en scène imaginée par Kara pour impressionner les Bandakar, mais des authentiques dévotions que les Daran adressaient à leur seigneur depuis des millénaires. Et la mort de Sith pensait chaque mot qu'elle récitait.
« Vous pouvez vous lever, »
dit-elle aux Bandakar. Ils obéirent timidement et dans un silence respectueux. Richard les balaya du regard avant de prendre la parole.
« Je suis Richard Rall, l'homme que vous avez empoisonné afin qu'il soit obligé de vous obéir. Vous avez commis un crime, voilà tout. Même si vous croyez pouvoir justifier cet acte parce qu'il était vital pour vous de me convaincre, rien ne vous autorisait à mettre en danger la vie de quelqu'un qui ne vous aurait jamais fait de mal. Avec la torture, le viol et le pillage, le meurtre est une des armes principales de l'ordre impérial. « Seigneur, nous ne voulions pas vous nuire !»
s'écria un des Bandakar, horrifié qu'on puisse l'accuser d'un pareil forfait. D'autres hommes crièrent haut et fort que le seigneur Rall se trompait.
« Vous me prenez pour un sauvage !»
lança Richard sur un ton qui doucha les ardeurs des hommes blonds.
« Vous pensez être meilleur que moi et avoir par conséquent le droit de m'empoisonner ? Et vous aviez également l'intention de menacer la mère inquisitrice. Comme des enfants gâtés, lorsque vous voulez quelque chose, vous entendez l'obtenir. Quel choix me laissez-vous à part la mort ? La mission dont vous me chargez est presque impossible. Du coup, il y a d'excellentes chances que votre poison finisse par me tuer. Voilà exactement comment se présentent les choses. » « J'ai déjà failli mourir à cause de vous, mais j'ai obtenu un sursis grâce à un peu d'antidote. Ma femme et mes amis ont cru me perdre cette nuit-là, et c'était vous les coupables. En m'empoisonnant, vous acceptiez pleinement le risque de mettre fin à mes jours. »«
Non !»
insista un homme, les mains croisées comme s'il priait.
« Nous ne voulions pas vous faire de mal. »
« Si la menace n'avait pas été terrible, quel effet aurait-elle eu ? Aucun, et vous le savez très bien. » « Si ce que vous dites est néanmoins vrai, donnez-moi l'antidote et rendez-moi ma vie, car elle ne vous appartient pas. »
Cette fois, aucun Bandakar ne prit la parole.
« Cette solution ne vous sourit pas ? Vous voyez bien que j'ai raison. L'esclavage ou la mort, voilà tout ce qui me reste comme possibilité. Alors de grâce, cessez de pérorer au sujet de vos bonnes intentions. Vos actes vous condamnent et c'est tout ce qui compte à mes yeux. »
Richard croisa les mains dans son dos et marcha de long en large devant les Bandakar.
Bien sûr, je pourrais adopter votre philosophie et me demander si tout cela est réel. Me découvrant dans l'impossibilité de trancher, j'aurais beau jeu à me déclarer incapable de faire face à la réalité. Hélas pour moi, je suis le sourcier de vérité. Et cela m'interdit de pratiquer la politique de l'autruche. Quand on choisit de vivre, on ne peut pas se voiler la face. J'ai résolu de ne pas mourir et cette décision m'obligera à avancer sur un chemin étroit et dangereux. Quant à vous, c'est aujourd'hui qu'il faudra décider de votre avenir et de celui de vos proches. Philosophie ou pas, vous allez devoir regarder la vérité en face et croyez-moi, ce n'est pas un très beau spectacle si vous voulez avoir une chance de survivre. Aujourd'hui, après des millénaires passés à l'éviter, vous avez rendez-vous avec la réalité. »
Richard se tourna vers Owen.
Il aurait dû y avoir plus d'hommes, d'après ce que tu disais. Où sont-ils ?
Seigneur Rall, pour en finir avec le cercle vicieux de la violence, ils se sont rendus aux forces de l'ordre impérial.
Owen, après tout ce que tu m'as raconté et tout ce que ces hommes ont vu, comment ont-ils pu faire une chose pareille ?
Rien n'assure que ça ne marchera pas, Seigneur. Comment connaître la réalité de « assez » ?
« Devant moi, je te l'ai déjà dit, limite-toi aux faits et épargne-moi la phraséologie obscure que tu aimes débiter. Si tu as des faits nouveaux, je t'écoute. Sinon, cesse de bavasser dans le vide. »
Owen retira son sac à dos, l'ouvrit et en sortit une petite bourse en toile.
« Les soldats de l'ordre ont découvert que des résistants se cachaient encore dans les collines, »
dit-il, des larmes aux yeux.
« Un de mes amis avait trois filles. Pour enrayer la violence, un de nos concitoyens les a désignés à l'ennemi. Chaque jour, un soldat attachait une corde à un doigt de chacune de ces malheureuses, Puis il tenait sa victime pendant qu'un autre tirait sur la corde, jusqu'à ce que le doigt se détache. Ensuite, un homme de chez nous devait aller porter la cueillette du jour au père des trois petites. Ce manège dura pendant des jours.
Owen tendit la bourse à Richard.
Voici les doigts des trois filles de mon ami. L'homme chargé des livraisons sombra chaque jour un peu plus dans la folie. Selon mes amis, il parlait d'une voix de spectre et n'avait plus eu apparence humaine. Chaque matin, il débitait son discours, puis s'en allait. Convaincu que rien n'était réel, il avait résolu de devenir lui-même un fantôme. Les soldats de l'ordre, a-t-il révélé un jour, connaissaient les noms d'autres résistants, toujours des dénonciations bien entendu, et ils détenaient déjà leurs enfants. Si ces fugitifs ne se rendaient pas, il y aurait beaucoup d'autres doigts arrachés. La moitié de mes hommes jugèrent intolérable d'être la cause de tant de violence. Ils décidèrent donc de se rendre.
« Pourquoi me donnes-tu cette bourse ?» demanda Richard.
« Pour que vous sachiez, Seigneur, que mes compagnons n'ont pas eu le choix. Comment auraient-ils pu accepter qu'on torture leurs enfants ?»
Richard étudia les hommes dévastés qui se tenaient devant lui. Intérieurement, il brûlait de rage, mais il parvint à se contenir.
« Je comprends ce que ces hommes ont voulu faire en se sacrifiant ainsi. Et en toute franchise, je ne peux pas les en blâmer. Ça ne sera pas très utile pour notre cause, mais ils avaient le droit de défendre leurs enfants. »
Malgré sa fureur, le sourcier parvint à parler d'un ton calme.
« Je suis navré que les Bandakars subissent de telles atrocités, mais vous devez comprendre une chose. C'est réel, et l'ordre impérial est la cause de vos malheurs. Vos compagnons et vos concitoyens ne sont pour rien dans le cycle de la violence. » C'est l'ordre qui sème la guerre et la terreur. Vous ne l'avez pas attaqué et il n'a pas eu besoin de ça pour s'en prendre à vous. »
La plupart des hommes d'Owen baissèrent les yeux.
« Parmi vous, certains ont-ils des enfants ?»
Beaucoup de Bandakars hochèrent la tête.
« Pourquoi ne vous êtes-vous pas rendu ?»
demanda Richard en se passant une main dans les cheveux.
« Pourquoi n'avez-vous pas agi comme vos camarades ?»
Les hommes se regardèrent mal à l'aise. Certains semblaient désorientés par cette question, d'autres paraissaient avoir du mal à formuler une réponse. Leur tristesse était visible, en même temps qu'une étrange détermination hésitante, mais ils restaient incapables d'expliquer leur décision de ne pas se rendre. Richard brandit l'ignoble bourse en toile.
« Vous étiez tous au courant. Pourquoi ne pas être rentré chez vous ?»
Un homme prit enfin la parole.
« Un soir, je me suis glissé dans un champ. » Et j'ai pu parler à un ouvrier agricole. Bien entendu, je lui ai demandé ce qu'il était advenu des résistants qui s'étaient livrés. Il m'a répondu que leurs enfants avaient déjà été emmenés au loin ou tués. Quant à eux, ils avaient été déportés sans pouvoir retourner chez eux dire adieu à leur famille. Si nous nous étions rendus aussi, quel bien cela aurait-il fait ?
Une excellente question, murmura Richard. C'était la première fois qu'un Bandakar semblait comprendre pour de bon ce qui se passait.
« Vous devez arrêter l'ordre, »
dit soudain Owen,
« et nous offrir la liberté. Pourquoi nous avez-vous forcés à venir jusqu'ici ?»
L'optimisme très relatif de Richard fut aussitôt douché. S'ils avaient à peu près saisi la situation, les Bandakars étaient toujours très loin d'envisager une solution sérieuse. Ils désiraient être sauvés et attendaient que quelqu'un d'autre s'en charge à leur place. Tous semblaient soulagés qu'Owen ait abordé un sujet qu'ils n'osaient pas évoquer. Alors qu'ils attendaient la réponse de Richard, beaucoup de Bandakars jetaient des coups d'œil à la dérobée à Jensen. Ils semblaient également troublés par l'énorme statue dont ils ne voyaient pour l'instant que le dos.
« Je vous ai fait venir, » répondit enfin Richard, « parce que vous devez mesurer la difficulté de ce que vous me demandez. Si vous pensez que je réussirai à chasser l'ordre tout seul, vous vous trompez. Aidez-moi. Sinon, vos familles et vos amis sont condamnés à mort, je peux vous l'assurer. Pour que nous ayons une chance de vaincre, tous les membres de votre peuple doivent comprendre les choses que je vais vous dire.
Jusque-là, vous avez pris beaucoup de risques et supporté bien des malheurs. Comprenez-le, mes amis, pour que votre démarche ne soit pas vaine, il vous faudra recourir à des méthodes qui vous sembleront choquantes et peu dignes de ceux qui connaissent la lumière. Mais le temps presse, et l'heure des débats philosophiques est révolue. Une certitude demeure,
Vous avez tous résolu d'essayer de neutraliser les brutes qui tuent et réduisent en esclavage votre peuple. Vous êtes l'unique chance de l'Empire Bandakar, mes amis. Et la dernière.
Maintenant, écoutez ce que j'ai à vous dire. Ensuite, vous devrez choisir ce que sera votre avenir.
Tous les résistants en haillons, les joues creusées par la faim et l'angoisse, déclarèrent qu'ils étaient prêts à écouter jusqu'au bout le seigneur Ral. Certains parurent soulagés qu'il s'adresse à eux avec une telle franchise, et quelques-uns, hélas assez rares, semblèrent pressés d'entendre ce qu'il avait à dire.